Et oui, c'est la bande originale, une heure de distinction, de savoir, de finesse et d'humour, un peu tiède parfois. Au menu, Lilian Thuram, Radou, Mialé Anou, Jean-Pierre Jeunet, Anna Girardot, Judith Chemla, Patrick Chenet et la bande originale, bien sûr, au très grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Mais l'idée, c'est toujours donner à comprendre une situation aux enfants, parce que très souvent, on parle de réfugiés, de migrants, et très souvent, les enfants ne savent pas pourquoi il y a des migrants, pourquoi il y a des réfugiés. Et l'idée, c'est vraiment de donner à comprendre, d'expliquer qu'effectivement, il y a des pays riches, il y a des pays pauvres. Pourquoi il y a des pays riches, pourquoi il y a des pays pauvres? Et pourquoi, effectivement, il est important d'avoir une réflexion sur la solidarité. Parce que lorsqu'on parle de migration, des gens réfugiés, la vraie question, c'est est-ce que nous devons être solidaires ou pas entre nous? Et effectivement, essayer de dire aux enfants que peut-être que casser ces solidarités, c'est aussi casser les solidarités qui existent au sein de son propre pays. Et effectivement, est-ce qu'il faut pas réfléchir à mettre les choses en commun? Et donc, ça les concerne aussi.
Oui, l'exemple du partage du gâteau qui est fait par la maîtresse au tableau est assez criant. Avec, elle fait dessiner un gâteau au tableau. Elle dit on va le partager en deux. Sauf qu'évidemment, elle le partage d'une manière absolument pas équitable. Genre une part un 16e et les 15 autres 16e entre guillemets pour elle, en disant voilà, c'est comme ça que certaines personnes ou pays riches peuvent se comporter dans le partage, notamment des richesses naturelles aussi. Ça aussi, c'est expliqué. La notion, puisque ça s'appelle tous supérieurs héros, la notion de si on mettait tous un masque et une cape, on serait encore plus égaux?
Non, c'est dire que on peut être un super-héros, et super-héros, c'est simplement défendre aussi des valeurs, comme l'égalité. Par exemple, lorsque j'en discutais avec les enfants, je leur disais, est-ce que vous êtes conscient que si tous les habitants de la Terre consommer comme les Français, en fait, il faudrait trois terres. Mmh. Ben, en fait, ils comprenaient pas, les enfants.
Et on est là depuis le mois de mai, c'est ça,
en dette, en déficit,
on a consommé tout ce qu'on pouvait consommer de la planète, et ça y est, on est dans le rouge, là, déjà.
Ouais, mais très souvent, on oublie qu'en fait, que la problématique vient des pays riches. Mmh. Et très souvent, par exemple,
et de la surconsommation. Ouais,
ouais, d'ailleurs, il y a même des présidents qui, je ne veux pas dire de quel pays, mais qui vous disent qu'en fait, la surnatalité dans les pays pauvres, c'est ça le vrai problème.
Ouais.
Mais en fait, non, le vrai problème, c'est la consommation des pays riches, parce que c'est eux qui créent problème. Et donc, essayer de changer le regard sur ces choses-là.
C'était quel président?
Je m'en souviens pas. Mais c'est pas si important que ça. Mais c'est vrai que c'est très intéressant.
Ce qui est important, c'est que l'idée existe, en tout cas.
Ouais, l'idée existe qu'effectivement, les pauvres devraient arrêter de faire des enfants. Et notamment les pauvres des pays dits pauvres. Mais on se pose jamais la question à savoir, est-ce que les pays riches, nous ne consommons pas trop? Et le vrai problème, c'est
effectivement
ça.
Si, la question se pose, mais il y a carrément des mouvements aux États-Unis de minimalisme qui arrivent en disant on n'a pas besoin d'avoir des tonnes de fringues, des tonnes de voitures, des maisons avec trop d'espace. Il y a un véritable mouvement de réduction de la consommation qui existe. Alors c'est un mouvement un peu bobo, mais il a le mérite d'exister, en tout cas.
Mais c'est un vrai mouvement, mais je pense que les choses évoluent lorsqu'il y a des politiques d'État. Et donc, il faut questionner les politiques d'État avant tout.
Là, cette bande dessinée, vous, votre rôle est d'être co-scénariste, c'est ça? C'est Benjamin Chaud qui dessine et c'est Jean-Christophe Camus qui, avec vous, trouve l'idée? Comment ça se passe? Comment vous travaillez là-dessus?
Ben, au départ, j'ai voulu dessiner.
À part pour la séquence Madjo. On vous a dit, toi, tu vas colorier.
Ouais, t'as vu la réaction directement, j'ai voulu dessiner, on rit tout de suite.
Voilà.
Bon, ça donne le ton.
Il fallait voir, voilà quoi. Très belle imitation de Guillaume.
Non, j'ai senti ce qui se passait dans sa tête.
Tu prends des risques parce que je rappelle que son bras est à peu près aussi large que ta cuisse. Hein,
incontestablement.
Non, mais je suis pas violent, donc il n'y a pas de problème. Non, en fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble à comment faire passer le message le plus intelligemment possible pour que les enfants se questionnent. Parce que l'idée, encore une fois, c'est pourquoi nous vivons dans cette société-là? Est-ce qu'on peut vivre autrement? Est-ce que nous pouvons être beaucoup plus solidaires?
Ouais, mais ce sont des valeurs qui peuvent exister, pardon, dans d'autres bandes dessinées, dans celle de Titeuf. Enfin, il y a, on le sait, Ezep est un militant justement et des droits de l'homme et pour handicap international, et il lutte contre les mines antipersonnelles et ainsi de suite. Le prisme de la bande dessinée existe déjà. Vous passez en vous vous dites on va créer des personnages pour faire passer des valeurs. C'est ça cette démarche. Bah, vous appuyez pas sur changer le scénario d'un Astérix, d'un Lucky Luke ou d'un Tintin. Non, mais on est d'accord. Vous partez d'une page vierge.
Oui, effectivement. Et je pense encore une fois, plus on multiplie ces discours, mieux c'est. Et je reste persuadé qu'effectivement, il faut expliquer aux enfants que chacun d'eux a un rôle à jouer dans la société. Parce que très souvent, il y a beaucoup de personnes en grandissant qui voudraient que les choses changent, mais ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, ils ne font rien pour.
Quand vous allez voir les enfants, quel que soit leur âge, vous réentendez les discours que peuvent tenir les parents à la maison ?
Ben, complètement. Voilà pourquoi il faut justement peut-être les emmener à réfléchir différemment. Par exemple, la maîtresse questionne les enfants en leur disant « voilà, la terre appartient à qui ?» Parce que c'est une vraie question. Mais dire aux enfants, voilà, vous savez, selon votre nationalité, vous pouvez vous déplacer beaucoup plus facilement sur cette terre. Mais les enfants, parfois, ils ne le savent pas. Et donc, dire aux enfants que la terre appartient à tous les êtres humains, c'est important. Ça paraît stupide, mais c'est super important en disant, voilà, il n'y a pas que les riches qui ont le droit de se déplacer. Parce que, encore une fois, lorsqu'on parle de réfugiés climatiques ou de guerre, très souvent, on parle de personnes en difficulté et très souvent, on a un regard extrêmement négatif des personnes les plus démunies. Mmh. Mais peu importe le pays d'ailleurs, hein, parce que vous n'avez pas besoin d'être réfugié. Même dans notre pays, très souvent, les personnes les plus en difficulté sont stigmatisées comme s'ils n'avaient pas la capacité à raisonner.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Les Pink Floyd, Another Brick in the Wall, là aussi sur la transmission, l'éducation.
Oui, et l'opposition surtout. Ouais. C'est-à-dire, j'étais encore en Roumanie, sous Ceaușescu, il y avait un trafic infernal de musique pop à l'époque des 33 tours qui étaient enveloppés dans du papier journal pour pouvoir circuler dans la ville à l'abri des regards de la Securitate, la fameuse police secrète. Et on s'abreuvait de tout, de Beatles, des Jet Rotal, de Rolling Stones.
Qui était interdit là-bas.
Qui était interdit, oui. Et c'était notre façon de nous sentir un tout petit peu libres et de nous sentir aussi un peu partie de l'humanité, du reste du monde, puisqu'on était tellement isolés. Donc cette chanson, c'était presque une chanson mythique d'opposition. We don't need no education. C'était cette éducation-là. C'est-à-dire, on essayait de nous formater à l'image du régime dictatorial.
Et en matière d'opposition, vous montez une troupe de théâtre clandestine. Vous jouez même sur scène.
Oui, j'étais très mauvais acteur.
C'est
mais...
ça. Vous vous êtes dit que c'était pas votre truc, en fait.
Bah, à l'époque, j'étais pas un très bon metteur en scène, donc je voyais pas que j'étais très mauvais.
Et en quoi c'était une troupe opposée au régime, c'est-à-dire par les textes que vous montiez, par la couleur que vous donniez.
On n'avait pas d'autorisation de jouer, ouais. Il fallait l'autorisation de tout le monde, du parti, etc. C'était des textes que j'ai écrits moi sur un roi et une reine au XVIIe siècle en Angleterre. Bon, bah tout le monde comprenait que le roi et la reine c'était Ceaușescu et sa femme, mais quand la Securitate me coinçait, je leur disais que non, que je critiquais l'impérialisme des gens anglais qui étaient naissants au XVIIe siècle.
Faut être malin, quoi.
Bah oui, sauf que j'ai dû partir parce que j'ai compris que je pouvais pas être malin trop longtemps.
Ouais.
Donc au bout de 2 ans, je me suis cassé de Roumanie parce que mon père me disait tu allais finir en prison. Et on jouait dans les universités, dans les amphithéâtres. On avait qu'une seule affiche peinte à la main. On la mettait 1 heure avant le spectacle. Les gens venaient, on avait tout dans les valises, les décors, les costumes. Et après, on partait au plus vite. Mais bon, souvent, ils nous chopaient quand même.
Et votre père aussi, Mordechai Bourkman, c'est ça ?
C'est son nom d'origine.
C'est son nom d'origine. Ouais. A dû changer de nom. Il a été interné dans des camps de travail ?
Dans un camp de travail pendant la guerre. Et quand il s'est évadé, c'est lui-même qui a falsifié sa carte d'identité. Il est devenu journaliste sous le nom très roumain Ion Mihailanu. Et à chaque fois qu'il rentrait dans la rédaction du journal, il y avait la police roumaine et allemande. À l'entrée, il avait qu'une peur qu'on lui fasse baisser le pantalon et qu'on découvre qu'il
était circoncis.
Voilà, et qu'il était juif.
1993, vous écoutiez Ike et Tina Turner. Save the last dance for me.
So dark.
93, Radu, c'est le tournage de votre premier long métrage.
Ah oui, oui, c'est un peu avant, ouais. C'est Trahir, oui, que je tourne un tout petit peu avant. C'est un miracle. Après 8 ans d'assistanat, je pensais que plus jamais j'allais pouvoir revenir à la mise en scène. Et miracle, j'arrive à faire ce film sur l'histoire en partie de mon père. Et après, plein d'autres miracles, puisque le film rafle plein de prix
à Montréal, à Istanbul.
Et le film m'aide à faire la connaissance de Robert Redford, puisqu'il me sélectionne à Sundance. Et il a l'habitude, c'est un homme exceptionnel, où il invite à déjeuner tous les réalisateurs qui sont en compétition et il vient parler à peu près 5 minutes avec chacun. Et c'est là où j'ai fait sa connaissance. Il avait adoré Trahir et il m'avait invité plus tard avec Train de vie, qui a eu d'ailleurs le prix du public à Sundance.
Eh bien justement, parlons de ce Train de vie. Là, vous écoutiez.
Geographic Man.
Cette musique vous renvoie quoi comme image ?
Ah bah c'est la musique yiddish que j'ai écoutée en boucle en écrivant en Train de vie. De cette culture, elle est disparue avec la guerre, mais je trouve la clarinette qui est vraiment le leader de la musique yiddish. Mmh. Et j'avais appris à l'époque ce qui était formidable.
Très proche de la manière de siffler pour un être humain. C'est-à-dire que...
Oui, ça me rappelait en plus Chaplin qui s'est beaucoup inspiré de ces musiques-là. Et ce qui est formidable, c'est que le jazz soit né de deux cultures différentes, la culture africaine bien évidemment, et de la musique yiddish, puisqu'il y avait plein de musiciens de Klezmer qui étaient à la Nouvelle-Orléans à New York, et qui à des moments, ils improvisaient, et ils passaient du klezmer, et c'est comme ça que le jazz a été inventé.
Donc 98, Train de vie, vous l'avez dit, qui a raflé beaucoup de prix partout dans le monde, notamment à Sundance, à Venise également. Là, on en a souvent parlé ici de ce film.
Prix du public, souvent.
Prix du public, c'est l'histoire d'un village juif qui organise un faux train de déportation pour échapper là, pour le coup, au véritable génocide. Et c'est un film qui a une véritable reconnaissance à l'international, mais un petit peu moins en France.
Oui, parce qu'on a souffert en France d'une concurrence déloyale.
C'était quoi, à la même époque qui sortait?
Comment s'appelle, La vie est belle de Benigni, avec qui il y avait eu d'autres histoires maintenant enterrées. Mais donc voilà, on nous refusait souvent, même pour dire, même sur les plateaux télé, radio, etc., parce qu'ils sortaient quasiment en même temps que nous. On nous a refusé à Cannes et lui, on l'a accepté. Voilà, on a eu beaucoup de concurrence et même un certain monsieur qui s'appelait Weinstein, qui m'avait menacé à Sundance en me disant, puisqu'à l'époque, je racontais un peu mes aventures avec Benigni, il me disait, tais-toi, les Oscars arrivent. Et si tu veux ne plus jamais travailler dans le cinéma, tu peux continuer à dire ce que tu dis.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Matumbi, vous écoutez ça, vous pensez à quoi?
Je pense que c'est la seule façon que je puisse danser. Et là, vous voyez le maximum, je suis au taquet, là, vous voyez? Je suis capable de faire ça, c'est-à-dire que je bouge le cou, voilà.
C'est déjà pas mal.
Voilà.
Comment vous avez découvert cette musique? Elle vient...
Je sais pas, je pense que le reggae, c'est la première musique que j'ai écoutée en dehors des 45 tours de musique de film que je piquais au magasin Runé à Nancy.
Donc c'était vraiment les BO, c'est vraiment ce qui t'intéressait.
Ouais, ouais. Bah oui, parce que j'étais trop axé sur le cinéma. Quoi. Donc j'ai la première musique, c'était... Moi, c'était pas le punk, c'était le reggae.
Matumbi. Okay.
Et dans ces années-là, 74-75, il y a deux rencontres capitales. C'est Marc Caro à Annecy.
Ouais.
Et Manuel Otero.
Ouais. Manuel Otero, c'était un réalisateur d'animation et j'étais son grouillot, donc j'ai appris plein de choses, à l'assister au montage, l'exigence, à balayer le studio et à porter les copies à la gare, voilà, je faisais tout.
Et vous dites que vous l'avez abordé au culot?
Dans un hall de cinéma où il collait des affiches, voilà, avec le cœur qui battait et je tremblais.
Et Marc Caro, quel souvenir vous avez de sa rencontre? C'était au festival du film, du dessin animé.
Oui, d'animation d'Annecy, oui.
Lui, il avait un magazine, hein, c'est ça?
Il avait inventé un petit magazine qui s'appelait Fantasmagorie, que j'ai repris par la suite avec André Iqbal, et on a fait ça pendant des années. Quand il venait à Paris, il dormait dans ma chambre de bonne, par terre, et on essayait de dormir malgré le chauffe-eau qui faisait gros toute la nuit.
Et on sent à ce moment-là, quand on rencontre des personnes qui vont être déterminantes pour la suite, que ça va durer longtemps. Est-ce qu'on a un pressentiment? Vous parliez de pressentiment dans le bouquin, que ce soit Amélie, enfin Audrey Tautou, ou vous, dans le fait que vous alliez réaliser un film à Hollywood et qu'elle serait un jour au César. Est-ce que là, vous le sentez quand vous l'avez
rencontré? Disons qu'il y avait le désir de faire, comme je disais, de travailler ensemble, donc de commencer par des films d'animation qui étaient plus à notre portée que de faire des films avec des acteurs.
Mmh. Enfin, sauf que Amélie Poulain, au début, enfin, je sais pas si on en parle, si tu veux en parler plus loin, mais Amélie Poulain, au début, ce n'était pas Audrey Tautou.
C'était Emily Watson, une actrice anglaise qui jouait dans Breaking the Waves, qui m'a laissé tomber, comme ça arrive parfois, deux mois avant le tournage.
Après, vous avez proposé à Vanessa Paradis.
Oui, qui préparait un disque, donc elle ne l'a même pas lu. Et puis après, j'ai
ça, c'est violent, ça, non?
Bah, je crois qu'elle le regrette un petit peu, d'après ce que j'ai entendu dire.
Il y a de quoi, parce que le film
mais ça va tellement bien,
a fait quoi, pratiquement 40 millions de spectateurs, sans compter ceux qui ont les DVD qui se le repassent entre eux. Mais...
on m'en avait rajouté 7, mais sympa, c'est... merci, merci.
C'est quoi, c'est 33
33 sur le monde.
C'est énorme.
C'est pas mal.
C'est énorme. C'est énorme.
Divisez-le en nombre de stades de France en train de se vider. Là, on se rend compte.
C'est ce que vous faites aussi quand un film marche moins bien.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. En rappelant aussi, vous le racontez dans le livre, qu'après avoir fait Alien, vous faites donc enfin Amélie Poulain, même si dans la chronologie, vous aviez Amélie Poulain en tête avant d'accepter de faire Alien. Les producteurs, Tom Rothman, vous avez dit, mais je vais, produisons ton prochain film, même si c'est un film en français. Vous lui proposez Amélie Poulain et là, un comité de lecture vous accueille froidement.
Même pas. Je suis reçu dans la salle alors que j'ai pris l'avion quand même exprès pour Los Angeles, et on me dit, il y a un petit problème Jean-Pierre, voilà, le service marketing a dit c'est pas Titanic. J'ai dit, ben non, c'est Amélie à Montmartre, c'est sûr que c'est pas Titanic, au revoir. Et c'était terminé, j'ai repris l'avion dans l'autre sens.
Ah ouais, c'est fou.
Mais après, quand Tom Rothman l'a vu projeté, qu'il a su le succès grâce à Miramax quelque part, il postillonnait comme il pouvait faire, et je pense qu'il a viré tout le service marketing le lendemain, à mon avis.
En 91, vous écoutiez Massive Attack. Ça peut être une BO, ça.
Ouais,
on voit des images quand on entend ce genre de musique.
Chaque film s'écrit avec une musique, je sais pas pourquoi, qui souvent ne correspond pas du tout au film d'ailleurs. Je me souviens avoir. Amélie, je pense que c'était Hans Zimmer pour Gladiator, vous voyez, des trucs qui n'ont rien à voir.
Bah pourtant.
Ah oui, mais je connaissais pas encore à l'époque.
Ça c'est venu après les
images. Je pensais à Michael Nyman, on l'avait contacté, on l'avait rencontré, il avait l'air de s'en foutre un petit peu.
Aussi.
Et un jour, je vais au tournage et la petite conductrice me met un disque d'Ian Tiersen dans la voiture. Un peu en pensant, voilà. Et j'ai appelé ma productrice en disant « Arrête tout, j'ai trouvé !»
1991-92, dans cette période, Leïla.
On vous réalise aussi votre premier long-métrage. Et on y arrive à Délicatessen avec Dominique Pinon, qui est un acteur fétiche, toujours, pour vous. Enfin, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que quand il parle de vous, il est toujours très, très ému.
Ouais.
Avec Karine Viard, Tiki Olgado, Jean-Claude
Marie Landouniac.
Ouais, tout un...
Moi, j'ai un petit truc à dire, pardon, sur Tiki, parce que j'avais la chance d'être pote. Avec ami même, c'est le mot qu'il faut employer, avec un mec aussi vrai, aussi sincère. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai lu ce que vous avez fait sur le long dimanche de fiançailles. Vous vouliez tourner avec Tiki Olgado qui avait le cancer qui était en train de le ronger. Mmh. Les assurances, sachant que le cancer allait gagner ce match d'une manière lâche, je parle du cancer, mais aussi les assurances, n'ont pas voulu assurer Tiki Olgado en disant non, nous on vous suit pas là-dessus. Et vous, par fidélité, par amitié, vous avez...
échangé avec Dominique Pinon.
Bah, grâce à Pinon, qui a accepté, surtout. Ils ont échangé les rôles, ça leur devenait possible, parce que le tournage était plus réduit.
Aussi accepté, parce que des productions qui acceptent de tourner avec des acteurs qui ne sont pas, entre guillemets, assurés...
Je me suis quand même entendu dire, si on n'a pas Tiki, j'arrête le film. Là, ça a fait un petit choc quand même. Et Tiki, on est en Corse pour des repérages ou pour le tournage, et sur qui on tombe? Le médecin des assurances.
Punaise.
Et là, j'ai vu un moment chaud. Le médecin n'emmenait pas large, quand même.
Ouais.
En même temps, il faisait son boulot, mais quand même, c'était dur. Quoi.
Et malheureusement, Tiki n'a jamais vu.
Il est mort pendant le tournage.
Le film.
C'était dur, en plus, il était sous médoc et tout, c'était dur.
Non, mais voilà, donc que ce soit à Dominique Pinon ou à vous, y a des mecs bien sur Terre, et c'est bien de le souligner aussi.
Et Délicatessen, pour revenir au film, a remporté de nombreux prix, dont 4 Césars, c'est bon, je dis pas de bêtises.
Oh la pression.
Ah voilà, tout d'un coup, j'ai un peu, voilà. Voilà, dont le meilleur première œuvre, meilleur décor, meilleur montage, meilleur scénario.
Alors, meilleur scénario, il y a Piala qui faisait la gueule. C'était l'année de Van Gogh, il nous faisait la tête.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter, et vous serez encore mieux, je vous le garantis, après le live de Synapson, Hideaway.
The sun and the moon. you hide away, I'll hunt you down and follow you to the end of the earth. My heart beats with yours, my lungs breathe with yours. You're a piece of me, I can't hide away.
Oh, I'm under your spell, I'm aching and I'm fading. And no, nobody can see, I'm your heartbeat, you're a part of me. Can't believe in all this time I'm hurting for you, but you feel like on the moon. Love, give it if so high, I'm dying for it, I'm dying for it. And I can't let you go. Hide away, hide away from me. Hide away, hide away from me. Hide away, hide away from me. Are you, are you? Hide away, hide away from me. Hide away, hide away from me. Hide away, hide away from me. Are you, are you?
C'était Hideaway en live avec Synapson dans la bande originale. Alors Synapse, c'est la zone de contact entre deux neurones. Tiens, je vais les compter chez celles qui arrivent. Alors, ah ben non, il n'y en a pas. Alison Wheeler.
Bonjour la France, vous le savez, nombreux sont les jeunes qui, abandonnés par Parcoursup, vont chercher un job d'été afin de se payer un tatouage tribal dégueulasse qu'ils vont regretter trois mois après. Et comme aujourd'hui, avoir des parents Premier ministre ne suffit plus pour être compétitif sur le marché du travail, rien ne vaut un bon CV. L'occasion est donc toute trouvée pour mettre le nez dans certains CV et autant vous dire que ça sent pas bon. Albert, je vous rappelle qu'une coloscopie, c'est pas un examen scolaire, c'est un examen médical.
Vous êtes sûr ?
Ça n'a rien à faire dans la catégorie diplôme, enfin. Je sais combien il est difficile de se retrouver face à cette feuille blanche. Cette chanson est dédiée à tous ceux qui souffrent en rédigeant leur CV et qui ont eu un jour le cœur brisé par un DRH. C'est mon curriculum vita.
Yeah. Harrison est dans la place.
Les jours passent mais tu n'y arrives pas à rédiger ton CV. C'est vrai, il y a tellement de choses à ne pas faire. C'est clair, il y a tellement de pièges à éviter. Sauf si tu es le fils du PDG. Choisis bien ta meilleure photo d'identité. Donne envie au RH de te recruter. Évite la photo où t'étais déguisé en Hitler l'année dernière pour essouer LSD. Vérifie ton adresse, ton numéro. Oublie ton email et tes vieux pseudos. Ce que t'avais quand t'étais en galère. Petit zizi du 95 @caramel.fr. T'essaies de te montrer sous ton meilleur jour comme un cocu candidat aux amours. T'essaies mais rien n'y fait, ça ne veut pas, ça ne prend pas, tu n'y crois pas. Ton curriculum vita. T'essaies de te montrer sous ton meilleur jour comme Jérôme Cahuzac devant la cour. T'essaies mais rien n'y fait, ça ne veut pas, ça ne prend pas, tu n'y crois pas. Ton curriculum vita.
Yeah.
Si tu n'as pas un bon parcours scolaire, mon frère, invente-toi un diplôme imaginaire. Un master ou un bachelor en marketing de l'air. De ta mère la boulangère, option grecque le millionnaire. Parle de tes expériences professionnelles, pas du shit que tu vendais à Sarcelles. Que tu adores les heures supplémentaires, les affaires, que ton frère s'appelle Bruno de Mer. Dis-leur que tu parles anglais couramment, même Jeanne Birkin a un moins bon accent. Et si on te demande tes centres d'intérêt, le salaire, l'IRTT et les jours fériés, t'essaies de te montrer sous ton meilleur jour comme un puceau qui va bientôt faire l'amour. T'essaies mais rien n'y fait, ça ne veut pas, ça ne prend pas, tu n'y crois pas. Ton curriculum vitae.
Bravo.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Oh, all the
oh merde.
Il y a du douce.
C'est tiré douce, hein.
C'est une reprise de la naissance.
Judith, votre voix dans une de vos compositions à The End of the Landscape, un morceau que vous interprétiez en 2011 sur le plateau de l'émission Des mots de minuit, une émission que l'on ne peut que regretter d'ailleurs à la télévision.
Tu viens de le faire.
Voilà. Ouais. Et quand je pense à vous, forcément, je pense à votre voix. Et récemment, je vous ai vu d'assez près lors de la cérémonie Molière. Des Molières.
Sublime.
Avec,
d'assez près, oui.
Avec sublime. Serge Bagdasarian. J'ai même vu Judith dans les préparatifs avant de monter sur scène dans les loges.
Oui.
En duo avec Serge Bagdasarian, avec cette reprise complètement improbable des 10 commandements, l'envie
karaoké.
D'aimer.
Ouais. Ce karaoké.
Ce karaoké.
Quelle surprise. Franchement.
C'est avec une mise
je
en scène
attends,
déjantée.
Je vous attends, n'oubliez pas les paroles ouais. Maintenant, vous êtes obligés.
Mise en scène déjantée et érotique qui, je pense, aura donné pas mal d'idées aux metteurs en scène qui ont pu vous voir parce que ceux qui ne savaient pas que vous chantiez comme ça.
Elle n'est pas sûre.
Non,
elle n'est
pas sûre. Le chant,
ah
c'est
oui,
quand même...
le chant.
Bah
ah
ouais,
oui.
Mais c'est assez rare pour être souligné des comédiennes qui
chantent bien.
Chanter.
Oui.
Bah ouais, c'est vrai. Donc quand je pense à vous, forcément, je pense à tout ça.
Tu veux balancer des noms ?
Non, mais voilà.
Tu penses et des chanteuses qui jouent mal à la comédie, tu veux penser
bah ça, je vous laisse les données. Moi, j'ai pas que ça à faire. Mais Judith, le chant et vous, c'est une longue histoire finalement, et c'est presque un hasard, je crois.
Un hasard,
ouais, une découverte au hasard.
Je sais pas, non, mais j'ai quand même toujours chanté quand j'étais petite et tout. J'adorais chanter, quoi. Mais après le chant, non, moi j'ai beaucoup fait de chant lyrique, d'opéra, ouais. Mais après c'est en écoutant, j'ai toujours imité, quoi. J'étais un peu imitatrice. Donc et après quand je vois que j'imite et que ça fait la voix de l'opéra, je me dis oula.
Ah, donc je vais creuser. Et vous, Anna, vous ne chantez pas ?
Non,
je ne crois pas.
Pas
vraiment,
encore.
Je cherche encore mes capacités vocales.
Vous savez si vous chantez juste ou pas ?
On me l'a dit, hein, je ne chante pas juste.
Ah.
Vraiment. J'adore
les
chanter
vilains.
Pourtant.
Il paraît que ça s'apprend.
C'est pas gentil.
Je sais pas, Judith,
s'apprend
ou pas la justesse ?
Bah quand même, oui. Je pense que l'oreille, elle doit s'éduquer. Moi, j'ai un père violoniste. J'ai toujours entendu de la musique, toujours entendu travailler, chercher. Donc...
Moi, j'ai un père chroniqueur sur France Inter.
Mais oui, tu sais que j'ai joué avec ton papa.
C'est vrai ?
Bah ouais.
Ah, je savais pas.
Bah ouais, on se connaît.
Donc le chant, non, ça c'est pas pour vous, Anna, a priori, parce que dans les interviews, vous parlez beaucoup de musique. Je trouve que vous avez toujours une pure playlist à chaque fois. Vous balancez des très très bons sons, des belles références qui sortent un petit peu, je trouve, des sentiers battus. Votre modèle, vous le disiez dans une interview, c'est Beyoncé.
Oui.
Et on vous a vu jouer notamment dans pas mal de clips, dans le clip de MGMT notamment.
Oui. Tout à
It's
fait.
Working.
Mm-hmm.
Énorme succès. Ouais.
Et comment vous appréhendez-vous la musique au quotidien ?
Alors, vraiment, j'aurais adoré savoir chanter parce que la musique, pour moi, ça peut tout remplacer. Je pourrais me nourrir de musique. J'adore ça. Et j'adore les gens qui me font découvrir de la musique. J'adore les gens qui sont passionnés de musique. J'en écoute à longueur de journée. Et
ça traduit des émotions pour vous, la musique ?
Pour moi, c'est le meilleur véhicule d'émotion, la musique. Et donc, les chanteurs arrivent ont cette capacité à transmettre une émotion. Pour moi, les rockstars vivent un espèce de truc dingue. Quand t'as une foule de gens qui chantent en même temps que toi, ça doit être une sensation. Déjà, quand t'es dans le public,
c'est déjà fou.
Tu chantes avec la foule, c'est incroyable.
C'est pas le même sentiment que d'être sur scène, au théâtre, d'interpréter un rôle et d'avoir un retour, soit un éclat de rire, soit on sent qu'il y a un trouble dans la salle. Vous devez ressentir les mêmes choses, non ?
Peut-être le rire, mais alors moi, j'ai jamais fait des rôles qui faisaient rire, alors malheureusement.
Le public qui hurle vos répliques en même temps que vous, ça doit
faire un sentiment. Ça s'appelle un souffleur, ça n'a rien à voir.
Ça ferait pas le même effet, je pense.
Judith, non, sur scène, on peut avoir le même sentiment en chantant et en jouant à la comédie, de partage ou de communion avec un public ?
Moi, je trouve quand il y a des textes, des grands textes, vraiment avec des courants profonds, hyper... ça se rejoint un peu, quoi, je trouve. Mais c'est vrai que la musique, on sait que directement, avec une note, on touche tout le monde en plein cœur.
Ouais, ouais.
Et puis que tout le monde vibre à l'unisson. Quoi. C'est
surtout,
physique.
Surtout,
en
le,
fait.
Surtout le violon, je pense que c'est l'instrument qui peut déclencher des larmes.
Et de douleur aussi.
Non.
Il y a des notes. Je ne savais pas où ça allait aller.
Non, mais je suis sincère. Je me suis surpris sur des notes de violon.
Oui, t'es sensible.
Que ce soit de la musique classique ou même des morceaux plus qualifiés de variété.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est une histoire de vibration, de fréquence ou autre, mais d'un coup, ça déclenche des larmes. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Ça et l'oignon.
J'imagine que vous avez dû vivre ça aussi, cette émotion-là, d'avoir quelqu'un que l'on aime produire un son émouvant. Ça doit être bouleversant.
Moi, mon grand-père, il prend son violon. Bon, il joue moins bien qu'avant. C'est ce qu'il dit, hein. Je ne veux pas le trahir là-dessus. Mais dès qu'il se met à jouer, à vibrer, il y a toute sa vie qui passe dans ses cordes. Quoi. Et tu as envie de pleurer tout de suite, parce que c'est une émotion mais énorme.
Ça a l'air sympa avoir
tout
une autre famille.
Son amour de la vie.
Tout le monde
chiale. Non, mais c'est trop beau.
Quand vous parlez des rockstars, Anna, pour revenir à ce que vous disiez, à laquelle en particulier vous pensez? Quand vous dites c'est rockstar en communion.
Ou récemment
avec
un concert que vous avez vu où vous avez senti cette communion.
Mais c'est Queen, c'est Freddie Mercury par exemple.
C'est Freddie Mercury, le premier qui arrive.
Et vous avez été déjà fan, groupie d'un artiste?
Alors moi j'étais très fan, ado, de Stéphane Echer.
Ah ouais.
Alors j'allais voir tous ses concerts, je connaissais toutes ses chansons par cœur. Et j'avais volé son grattoir. Enfin bon, c'était...
C'est pas un grattoir. C'est mignon, moi aussi,
comment
j'ai
grattoir.
Un médiateur.
Il y a une petite histoire de délinquance, quand même, là-dessus.
Le grattoir, c'est pour le chat qui fait ses griffes. Mais maintenant, aussi, je dirais à Stéphane que vous aimeriez qu'il soit un chat qui fasse ses griffes.
Exactement. Mon Dieu.
Et groupie, pardon, ça veut dire avoir le t-shirt avec la tête du chanteur, ça veut dire avoir un poster dans la chambre, ça veut dire vous avez été une adolescente.
C'est en backstage, voyons.
Ça c'est une chance, un privilège ça.
Non, j'ai à un moment donné, j'ai joué dans le clip des The Kooks.
Oui, groupe anglais qui revient avec un nouvel album qui est vachement bien. Ouais, il y a un nouvel album qui sort là.
Super. J'étais à un moment donné, j'ai vachement traîné avec eux et c'était top de les voir sur scène et puis de voir un peu un rock band. Je voulais absolument faire partie d'un rock band, quoi. C'était mon rêve.
Et alors, puisque vous dites ne pas pouvoir ou ne pas savoir chanter, jouer d'un instrument, c'est aussi non plus.
Non, mais quand on n'a pas l'oreille, on n'a pas l'oreille. C'est le truc. Voilà.
La bande originale, les meilleurs moments. Sur France Inter.
Je sais, vous êtes bien dans la bande originale et vous serez encore mieux, garanti. Ce sera juste après 4 out of 5 d'Arctic Monkeys.
Advertising imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old grey whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Two new places keep on popping up. Since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a tapperier on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cokie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's the place to go, and you will not recognize the old headquarters. Oh, the nights that never happened.
C'était Arctic Monkeys avec 4 out of 5. Dans la bande originale, bien entendu. Chaud comme une banquise, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tanguy Pastureau.
Monsanto, c'était cette boîte qui a créé le glyphosate numéro 3 des inventions qui ont nui à la planète, derrière l'extraction du gaz de schiste et la soirée spéciale Les Baudins sur Paris 1ère. Le glyphosate, vous en aspergez sur un Yorkshire du 16e, il perd tous ses poils. Et Anne Hidalgo, le voyant, s'écrie « Oh, un rat, bienvenue à Paris, ici c'est chez toi ». Grâce au glyphosate dont les paysans arrosent les cultures, on n'a plus d'insectes. Celui qui survit plus de 12 minutes dans la bosse, ça veut dire que c'est un warrior. Il peut terminer les derniers djihadistes en Irak juste avec son dard. Comme il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux parce qu'ils s'en nourrissent. Et on est peinard à la cambrousse entre humains. Le seul bruit de bête, c'est celui de notre tante Josiane quand elle crie à table du chou au glyphosate. Et ensuite, on crache par terre et ça fait un gros trou. On découvre alors un cimetière mérovingien enfoui. Donc, on rebouche avant que Stéphane Bern déboule et exproprie le champ de betteraves. Le glyphosate, c'est donc super pour ceux qui détestaient la monotonie des chants d'oiseaux, qui de génération en génération produisent tous le même bruit, comme les gens qui font du reggae. Mais à cause de 4 écolos et 3 humoristes conscients, l'image de la marque Monsanto s'est dégradée, telle celle de Plastic Bertrand quand on a découvert que c'était pas lui qui chantait sur ses disques, mais un chat atteint d'un cancer en phase terminale s'étant en plus coincé les bourses dans la porte du salon. Monsanto s'est donc terminé. La marque Bayer, qui a fusionné avec, l'a annoncé trop sulfureux, trop controversé. Le glyphosate, c'est le Éric Zemmour des pesticides. Et c'est malin de leur part, parce que José Bové, là, se retrouve comme un con avec un stock de 700 t-shirts fuck Monsanto invendable à la fête d'attaque. C'est comme si Macron décidait qu'il n'avait plus de nom. Qu'est-ce qu'il dirait Alexis Corbière dans les manifs? Non à la politique de... Ça n'aurait pas un impact dingue, hein, donc comme aujourd'hui. Alors que Bayer, c'est vaste. Ils font des médicaments pour animaux. Hein, quand une chèvre, par exemple, dit à son légionnaire qu'elle a la migraine, hop, un cachet d'aspirine, elle bête de plaisir. Ils font aussi des crèmes contre les vergetures. Nous, on s'en fout, mais Shakira, ça peut foutre en l'air sa carrière. Et également des pilules contraceptives. Alors qu'il suffit de regarder une prestation des Kids United reprenant des mises ressources pour ne jamais avoir envie de se reproduire.
Ouais, ils auraient pu aussi travailler sur l'image de Monsanto, conserver la marque.
Oui, vraiment. C'est long, mais c'est faisable. En 1943, Bayer, justement, firme allemande, achetait des cobayes au camp d'Auschwitz pour des expériences médicales. Et aujourd'hui, on les connaît parce qu'ils vendent de l'aspirine. Donc tout est jouable. Hein, les Khmer Rouge, s'ils s'étaient accrochés, auraient pu créer le hand spinner. Hein, c'est une hélice qu'on fait tourner sur le doigt. On peut le faire aussi avec celle du moteur d'un bateau, mais juste une fois. Et résultat, on zappait tout leur crime parce qu'ils faisaient rêver 3 kids. Bayer, niveau déontologie, partait de très très loin. Ils ont commercialisé des contraceptifs dangereux, ont écoulé du sang contaminé dans les années 80. Michel Fourniret, au tribunal, s'il avait dit « Ouais, mais regardez, Bayer, tout ce qu'ils ont fait, ces enfoirés », le juge lui aurait répondu « T'as raison, t'es lim, Mimi. Pardon, on pouvait pas savoir que t'avais avoué que 11 meurtres. À côté de Bayer, t'es oui-oui, mon pote. » Et aujourd'hui, Bayer a une image nickel, au point qu'il s'inquiète de celle de Monsanto qui a fait clamser 14 sauterelles. Ou 14 milliards, mais bon, peu importe. importe. La solution, dès qu'il y a un problème, est donc de changer de nom. Ainsi, Manuel Valls, dont l'image est détériorée, pourrait choisir de s'appeler Benoît Hamon. Hein, le nom est déjà pris, mais l'autre n'en fait rien. Gérard Collomb, qu'on accuse d'être inhumain dans sa politique migratoire, si demain il dit « je ne suis plus Gérard Collomb, mais Babacar Diop », eh ben, les associations antiracistes, elles se retrouvent le bec dans l'eau. On a toujours changé les noms. Quand je lis un Marc Lévy sur la couverture « je barre Marc », j'ajoute Strauss, et là je dis « je suis sur un Lévi-Strauss ». C'est fascinant le rapport qu'il fait entre nature et culture. Et tout le monde se dit « Pastureau, il va finir à Arte ». Le glyphosate, ça reste une saloperie. Mais maintenant, il n'y a plus de marque, juste le glyphosate. Hein, c'est comme de s'étouffer avec des panzani et de se battre après contre les nouilles en général. Ça n'a aucun impact. Alors bien joué Bayer, et tant pis pour Beauvais.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
J'ai reçu une carte de maman il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Alors elle va peut-être venir en France dans quelques mois.
Bah, dis-moi, quand ta mère arrive, j'essaierai de ne pas la croiser. Voilà, ça c'est bien.
C'est ouais. Passion intense.
J'aurais pas un peu la même chose, mais avec un autre nom.
Je ne suis pas là pour être aimée. Où vous jouez Jean-Claude Delsarre, un huissier de justice qui a depuis longtemps abandonné l'idée que la vie pouvait lui faire des cadeaux, en gros, jusqu'au jour où il pousse la porte d'un cours de tango et il rencontre une femme interprétée par Anne Consigny. C'est un film de Stéphane Brisé qu'on connaît aussi beaucoup pour récemment En guerre avec Vincent Lindon ou encore La loi du marché. Et je crois que ce film tient une place particulière dans votre cœur, dans votre filmographie, Patrick Chesnais.
Oui, c'était parce que c'est un très beau personnage. Vous savez, moi, je suis à la recherche des personnages faits par un maître qui est Stéphane Brisé, qui a une façon de faire du cinéma, de filmer, de diriger les acteurs exemplaires. C'est un vrai créateur. Et le film a été magnifiquement reçu par les gens qui font des commentaires dessus, les critiques, et puis le public. C'est un film qui, dans sa catégorie, a bien marché. Donc l'ensemble de tout ça fait que c'était une expérience particulière, inédite, et puis suffisamment réussie pour que ça soit bien. Oui, on fait toujours référence à ce film.
Ouais. Ouais. Il y a Les Beaux Jours aussi de Marion Vernoux, qui est important. Vous venez de dire que Brisé dirigeait de façon exemplaire. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Et est-ce qu'on s'y retrouve aussi avec Marion Vernoux?
Oui, Marion Vernoux, c'est un vrai metteur en scène. Ouais. Fait partie de ces gens qui, sur le plateau, ont des convictions, mais sont prêts à tout changer sur une inspiration, sur un moment de création différent. On dit, tiens, si on faisait ça, etc. Et ça, j'adore ça, moi.
C'est pas déstabilisant, au contraire?
Non, au contraire, non. C'est inspirant, ça. On a envie d'accompagner le metteur en scène, et on a envie de changer. Moi, j'aime bien changer, être surpris, hein. La mise en boîte, c'est pas mon truc. On s'embête, on s'ennuie, surtout après un certain nombre de films, comme j'en ai tourné.
Ouais, vous avez plus de 80 films à votre actif.
Donc, on aime bien être accompagné, poussé dans des retranchements, des envies, des folies, des envies de jouer différemment ou de faire quelque chose qui ressemble à une création.
Tout à l'heure, vous disiez, voilà, j'hésite beaucoup pour choisir un rôle. Quand on a fait plus de 80 films comme vous, vous avez joué dans plus de 50 pièces. C'est quoi? C'est l'intérêt pour un personnage, si à un moment se dire, bon, faut quand même que j'aille interpréter un rôle parce que ma pratique me manque.
Parce que j'ai ça à foutre.
Non, mais parce que j'ai envie de pratiquer aussi. Non, j'imagine que c'est un rapport aussi hyper...
Il pourrait aussi, à l'inverse, y avoir une lassitude en se disant, j'ai déjà interprété ce genre de rôle.
Expliquer l'hésitation pour certains rôles.
Oui, bah, vous savez, il y a plein de paramètres. Ouais. Hein, ceci dit, on ne sait jamais à l'avance ce que va être un spectacle, ce que va être un film, comment il va être reçu. Quelle va être sa carrière, comment je vais me positionner par rapport à ça, comment comment le public va s'approprier le film, ce qu'il va en faire, c'est ce public qui décide. Ouais. Le film vit sa vie, le film vous échappe au bout d'un moment, c'est le public qui le prend ou pas. Et voilà, donc c'est toujours un mystère au départ. Il y a des films où j'aurais pas donné cher de la peau du film, et que c'est devenu des phénomènes, et puis d'autres films où on était en confiance, auxquels on croyait, finalement, qui n'ont pas fait de carrière.
Mais pardon, Patrick Chesnais, quand vous dites je cherche des
rôles. Ma phrase,
je cherche des rôles.
Je cherche des rôles, je cherche des personnages. Est-ce que les metteurs en scène, est-ce que les réalisateurs, est-ce qu'il n'y a pas des cases dans lesquelles les auteurs vous mettent et dont vous aimeriez sortir?
Si vous voulez, moi je fais des grands écarts souvent dans les films. Hein. Mais alors peut-être que je m'approprie les personnages et j'en fais quelque chose, c'est moi qui le joue avec ma diction étrange, mon corps, voilà, et que finalement ça ressemble un petit peu au film précédent, au film qui va suivre. Sauf que c'est toujours très différent, hein, entre le vieux beau dont on parlait tout à l'heure.
C'est pas moi, Patrick.
Non mais dans la pièce, en tant qu'il y a de l'amour, que vous étiez au théâtre, là aussi c'était, il y avait un problème de couple, oui. Il était aussi attiré par une belle et jolie jeune fille jouée par Valérie Beg. Oui. Là, on retrouve aussi un peu cette scène, cette situation dans Moi et le Che, avec une histoire d'amour qui s'étiole un tout petit peu, avec il a encore envie.
Si vous voulez, sur un spectre très, très large, il y a des moments, j'appuie. Vous savez, je suis assez. Assez différent, comme c'est-à-dire que je peux être à la fois fermé, agressif, violent dans certains films, puis d'autres fois la tête dans les nuages, prenant la tête dans les pieds dans les tapis, quoi. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Parfois je m'en sers. Ça dépend des jours, ça dépend des moments.
C'est une qualité finalement, ça aussi.
Bah c'est ce qui fait peut-être.
De surprendre.
Oui, moi je trouve que c'est un peu le. Je ne peux pas employer de grands mots, mais enfin, l'aristocratie de l'acteur, si je l'employais, dis donc.
On vous le ressortira.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Attention, atterrissage d'urgence, puisque c'est l'heure de l'intervention uruguayenne de Guillermo Guiz.
Bonjour les amis.
Salut Ernesto.
Salut. Ah, vous savez comment je sais que je suis vieux? Tu regardes la télé? Non. Tu utilises l'expression vaille que vaille? Tu es Nelson Montfort? Non. Eh bien, non, bien essayé, bande de flics ratés. Non, je sais que je suis vieux parce que la saison des festivals démarre et que je m'en branle avec une méticulosité. Sérieux, je m'en branle avec la main d'un autre, quoi. Vraiment, je m'en branle sans dentifrice. À la peau. Je m'en branle à la peau. C'est homérique comment je m'en branle. Alors qu'avant, les festivals, c'était vraiment une de mes grosses passions. Ça et les pubs pour la marque Kinder, c'était vraiment mes deux passions. Tu te rappelles les pubs Kinder qui faisaient la promotion de la famille traditionnelle arienne? Pas vrai, Maréchal, vous rappelez ça?
Ah, affirmatif.
Ah ouais, on était bien à l'époque. Non, mais c'est bon, aujourd'hui, ça me laisse complètement indifférent, 100% les festivals. J'adore cette citation de Nagui, d'ailleurs, qui parlait de son expérience dans Taratata, en disant, voilà, j'en peux plus, et ça me gonfle de rester avec des heures debout, entouré de gens hystériques et mal savonnés, à écouter de la musique de scout, etc. Et c'est exactement ce que je ressens avec les festivals. Une fois de plus, patron, vous avez vraiment trouvé les mots, quoi. Si vous pouviez juste trouver les sous maintenant pour nous rémunérer, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que je suis vieux. Il y avait Will of Green, ce week-end. Vous en avez parlé, je pense, vendredi avec Eric Tabarly
Yvan Bourgnon.
Oui, enfin, je sais bien, il y avait un marin. Et voilà. Franchement, moi j'adore Beck, Migos et Charlotte Gainsbourg, etc. Mais aujourd'hui, je préférais tellement qu'ils viennent chanter ici, dans le studio, comme Sinapson, avec Charlotte Gainsbourg qui me ferait un petit single de dire « Je te connais pas, Ernesto, mais je vois que vu que ta position dans le studio, tu dois être un mec plus important que le public. » Non, vraiment, c'est un truc tout simple. Je ferai une story Insta comme ça, hashtag esprit inter, hashtag inter, hashtag terre, hashtag air, hashtag hashtag. Enfin, je serais vraiment deux chansons, trois max que je pourrais écouter peinard ici sur ma chaise, vraiment, à sentir planer le souffle chaud et âcre et faisandé de Daniel Morin. Vraiment, l'homme qui a inventé le concept d'haleine médico-légale. Vraiment, mais c'est plus pour moi la musique en meute et la pilosité bio. J'ai perdu l'innocence. Le seul festival vraiment où j'avais vraiment envie d'aller ce week-end, c'était à Bruxelles, où se tenait, je vous promets, le festival belge du whisky, du rhum. Je promets, à Bruxelles, il y avait un festival juste avec de l'alcool. Ils se sont dit, qu'est-ce qui fait chier dans le festival de musique? La musique, voilà, bingo. Ben ouais. Et ils ont fait, je cite, 1300 mètres carrés pour célébrer l'alcool sous toutes ses formes.
C'est beau.
Avec notamment présentation de produits en lien direct avec l'alcool, notamment les cigares, le chocolat, les tests de grossesse, etc. Et je vais pas faire l'hypocrite. Dans cette émission, s'il y a bien quelqu'un qui fait en permanence l'apologie de l'alcool, c'est bien Leïla. Mais bon, Leïla, le jour où Laurent Delahousse aura enfin quitté le JT pour ouvrir un musée consacré à Laurent Delahousse, elle sera plus obligée. Elle sera plus obligée de s'évader dans le whisky, dans le rhum, le gin, la vodka, la tequila, le calvados, l'armagnac, le curaçao, le pisco, le mezcal, le saké.
Tout ça avec modération, bien sûr.
Et vous savez comment je sais que j'ai un problème avec l'alcool? C'est qu'arrivé à Calvados, j'avais déjà une similiturgescence. Vraiment, c'est un truc. Et un saké, j'avais la buée dans les yeux. Vraiment, non, le temps passe. Et je me rappelle l'époque où j'allais encore dans les grands festivals, genre écouter Radiohead, etc. 80 000 personnes, 900 suicides, à peine 700 réussis. C'était vraiment le bon temps, c'était le bon temps. J'ai vu une TM en festival. Vraiment, je me rappellerai toute ma vie de Joe Star qui fait comment, ce qui fait pas de pas, Coty, chemise ouverte, chaîne.
Les
gens devenaient dingues, vraiment.
Non, c'est pas lui, ça.
Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Dans 10 ans, quand je parlerai de mes souvenirs de festival avec mes aides-soignants, ben, je leur dirai, voilà, j'ai encore eu, moi, le limoncello, je l'ai vu au festival du whisky à l'époque où c'était pas la star des alcools. Il était 11h du matin devant un tout petit sting. On était trois fans hardcore, comme ça. Il y avait encore la patronne de France Télévisions qui était encore ma collègue à l'époque, dans la bande originale. En attendant, allez, bonne émission, les amis.
La bande originale, le best-of
sur France Inter.
Allez, on remonte le niveau et pas qu'un peu, les amis. Grâce à qui? Grâce à Bibi. Enfin, une bonne nouvelle.
Quoi encore?
Une bonne nouvelle qui redonne un élan d'espoir à la France. Il faut le dire, elle en a besoin. Mais oui, le contexte économique est maussade. Il pleut tout le temps. Canal Plus arrête les guignols. Le moral est au plus bas. Mais depuis ce week-end, on sent comme un renouveau. Oui, les Français relèvent la tête. Les Français le sentent. Il se passe quelque chose de prometteur et d'excitant à la fois. Enfin, une promesse solide qui redonne le sourire à tout un peuple. Oui, cette fois, on y croit. Plus rien ne sera comme avant. Tout le monde est derrière le Rassemblement National de Marine Le Pen. Alors oui, 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 j'entends d'ici les esprits chagrins qui disent « Ah ben ça ressemble un peu au Front National, cette histoire, quand même. » Mais non, ça n'a rien à voir, enfin. Là, c'est rassembleur. Là, c'est ouvert. Là, c'est main dans la main. Oui. Dans la même direction. Enfin, merde, j'en veux pour preuve la présence de Lilian Thuram qui est venu nous annoncer qu'il est devenu membre ce week-end. Évidemment, il est venu pour ça. Arrêtez de rire, monsieur Guy. Je sais que vous êtes amer car vous avez été refusé au Rassemblement National. Vous avez été jugé bien trop à droite pour le parti de Marine Le Pen. Rassemblement National, on a tellement envie de faire partie de l'aventure. Tu es blanc et pauvre, la France te dégoûte. En rejoignant le Rassemblement National, ta vie va changer. La préférence nationale te donnera un logement, un travail pas payé et du personnel de service pour entretenir la maison. Tu es noir et pauvre, la France te dégoûte. En rejoignant le Rassemblement National, ta vie va changer. La préférence nationale ne te donnera pas de logement, encore moins un travail. Tu auras la chance de devenir personnel de service chez un patron blanc. Tu ne seras pas payé, mais tu le mériterais. Tu es un blanc et tu es riche. La politique économique de la France te dégoûte. En rejoignant le Rassemblement National, ta vie va changer. La préférence nationale va mettre à ton service des blancs pauvres et tu ne seras pas obligé de les payer. Rassemblement National, tout le monde est gagnant, tout le monde est bienvenu. Peu importe d'où vous venez. Venez comme vous êtes, moi j'y crois. À demain. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et le meilleur de la bande originale aussi. Bande originale réalisée avec brio, sagesse et audace par Marie-Annick Rimbaud. Je vous rassure, on sera de retour dès lundi 11h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h dans Vous les femmes. Attention, l'émission préférée de Mylène Farmer et Rocco Siffredi.